région du monde. Corinne Manjou, Geneviève Delrey.
Bonjour à tous. Les religions face à l'homosexualité, une question qui évolue. Si les traditions religieuses sur le plan doctrinal réprouvent l'acte homosexuel, certaines branches progressistes au sein du christianisme et du judaïsme ouvrent leurs portes aux gays et aux lesbiennes. Ce sera le sujet de cette première partie de Religion du Monde. Nous feuilleterons également en cette période du Ramadan en compagnie de Malek Chebel le Coran pour les nuls, dernier né de la populaire collection de First Edition. Dans la deuxième partie de l'émission, le dossier portera sur les chrétiens évangéliques avec notre invité Patrice de Plainquette, auteur du livre « Les évangéliques à la conquête du monde » publié aux éditions Perrin, et deux reportages en Ile-de-France et au Cameroun. L'homosexualité dans le judaïsme ultra-orthodoxe demeure un sujet tabou. Tu n'aimeras point. Le film dont vous venez d'entendre un extrait du réalisateur israélien Raïm Tabakman raconte la relation d'un père de famille, membre de la communauté ultra-orthodoxe de Jérusalem, avec un jeune homosexuel. La vie d'Aaron bascule quand un jour de pluie, Ezeri entre dans sa boucherie. Aaron Marie Arifka est un homme solide, réservé, austère. Il tente de surmonter son trouble et, dans une grande culpabilité, finit par céder au désir malgré les menaces et les intimidations de sa communauté. Douceur, sensualité, leur histoire contraste avec la rudesse d'un milieu fermé et oppressant. Deux hommes en kippa qui s'abandonnent dans les bras l'un de l'autre, peut-on parler d'un film audacieux? Question posée à Raïm Korsia, rabbin de l'aumônerie israélite de l'armée de l'air, longtemps bras droit de l'ancien grand rabbin de France, Joseph Sitruk, une des figures du judaïsme consistorial.
C'est pas audacieux, c'est un film qui raconte l'histoire de personnes qui ont une attirance l'un pour l'autre. C'est, en fait, le milieu social est relativement important. C'est un peu comme Witness chez les Amish, parce que c'était un monde fermé. L'idée, c'était un monde fermé.
Oui, mais là, quand même, on sait que le Lévitique condamne l'homosexualité. Voilà. Ça n'est pas qu'une question de milieu fermé. Là, il y a les deux personnages enfreignent la loi morale et religieuse.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, pas une forme de tabou, puisqu'on en parle très librement, on le lit deux ou trois fois par an dans la Bible. Il y a une interdiction de l'homosexualité, mais je ne pense pas que la religion soit un paravent absolu à toutes les pulsions. Simplement, elle donne un cadre qui nous permet de nous raccrocher à quelque chose de plus solide que notre seule volonté. Ça n'a rien à voir avec le côté joli ou parfaitement réussi, même temps doux du film dont vous me parliez. C'est plutôt l'idée que dans ce monde, si vous voulez, religieux, dans le monde en général, dans le monde religieux en particulier, c'est une forme de condamnation. Et ça, c'est difficile à accepter, parce que autant on peut dire c'est pas un idéal, autant c'est difficile de dire on condamne et on exclut. Je crois que l'idée du film, c'est plutôt ça. Et ça, c'est quelque chose qui est universel. Quand quelqu'un a un comportement qui n'est pas celui de la majorité ou de la norme, disons, il y a une tentation d'exclure. Et moi, je crois qu'il faut lutter contre cette tentation d'exclusion.
Alors, dans le judaïsme libéral, effectivement, cette tentative d'exclusion est rejetée. Hein, il y a véritablement, alors que dans le judaïsme orthodoxe, notamment en France, ça n'est pas le cas.
Dans le judaïsme orthodoxe, le judaïsme consistorial, le judaïsme majoritaire en France, il n'y a pas de rejet. On ne peut pas encourager l'homosexualité. On ne va quand même pas défiler avec un char à Gay Pride. Mais en même temps, d'ailleurs, cette notion de Gay Pride, d'ailleurs, j'ai du mal à la concevoir. Il n'y a pas une hétéro Pride. Bon, il ne s'agit pas d'encourager, il ne s'agit pas non plus de stigmatiser. Je trouve beaucoup plus grave, si vous voulez, la stigmatisation des homosexuels, que je pourrais d'ailleurs, d'une certaine manière, comparer à ce que on pourrait dire dans Sodome et Gomorre. Souvent, on dit dans la Bible, Sodome et Gomorre, deux villes ont été détruites parce que les gens avaient un comportement sexuel dévoyé. En gros, ils étaient homosexuels, ils pratiquaient l'homosexualité. C'est faux. Quand vous lisez les textes, Sodome et Gomorre sont détruites parce qu'on rejetait celui qui était autre, qui était différent. Paradoxalement, en rejetant quelqu'un, y compris en rejetant quelqu'un qui est homosexuel, ou quelqu'un qui est d'une autre religion que nous, quelqu'un qui est différent de nous, on se comporte comme les habitants de Sodome et Gomorre. Il faut avoir ça à l'esprit. Donc ce n'est pas tant la question du judaïsme ou pas du judaïsme, c'est la question d'une vision éclairée du judaïsme ou d'une vision de la peur et de l'enfermement.
Donc pour conclure, Raïm Korsia, ce film finalement, c'est un film qui montre que les lignes bougent, notamment au sein du judaïsme concernant l'homosexualité.
il ne s'agit pas que ça bouge ou pas. Ce n'est pas la question, ouais, c'est étonnant comme question. Ce qu'il ne s'agit pas de dire, on va essayer de grignoter peu à peu, on va réussir à faire en sorte que les ultra-orthodoxes participent à la Gay Pride, par exemple. Ce n'est pas ça. L'idée, c'est que l'orthodoxie dans le judaïsme ne doit pas mener, mais vraiment, elle ne doit pas mener à une vision de rejet de celui qui se comporte même mal par rapport aux textes qui définissent notre mode de vie. Le texte qui définit notre mode de vie, c'est la Torah. Ce texte nous dit qu'il n'y aura pas d'homosexualité. Ce texte condamne très clairement l'homosexualité. Alors, si quelqu'un vit cela, je n'ai pas à le stigmatiser de la même manière que quelqu'un, il y a marqué dans la Bible, tu ne transgresseras pas le Shabbat. Si quelqu'un transgresse le Shabbat, c'est son choix. C'est quelque chose qui est entre lui et Dieu. Et moi, je n'ai pas à me mettre en gardien de Dieu.
Si les grandes traditions religieuses réprouvent l'acte homosexuel, la tendance dans les branches progressistes, notamment dans le judaïsme libéral et chez les protestants, est de s'ouvrir aux homosexuels. Et cela, on l'a encore récemment constaté, Corinne.
Oui, le mois dernier, dans le cadre de son assemblée générale, l'église luthérienne américaine a voté une motion autorisant les pasteurs et les évêques homosexuels à exercer en son sein. Un mois plus tôt, et dans les mêmes conditions, le mouvement Quaker du Royaume-Uni a approuvé le principe de la célébration du mariage homosexuel. Dans la foulée, les dirigeants de l'église épiscopale américaine ont proposé les candidatures au titre d'évêque de deux religieux qui revendiquent leur homosexualité. Même l'islam, qui est d'ordinaire plus réfractaire à l'homosexualité, montre des signes de tolérance, puisqu'en Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, les transsexuels et les homosexuels ont leur lieu de culte propre depuis un an, et ce lieu unique fonctionne sans aucun problème dans le respect de la communauté. Stéphane Lavignotte est pasteur de l'église réformée de France et directeur de la Maison Verte, une paroisse inclusive qui accueille les différences, y compris sexuelles. Il est également auteur de deux ouvrages, « Au-delà du lesbien et du mâle », paru chez Van Dieren Éditeur, et « Vivre égaux et différents » aux éditions de l'Atelier. Il nous donne tout d'abord sa lecture de l'évolution des églises par rapport à l'homosexualité.
Je crois que ce qui explique cette évolution, c'est que pendant longtemps, les personnes gays et lesbiennes se cachaient, restaient dans le placard, et pour cause, parce qu'à se rendre public, elles prenaient des risques, et que les églises ou les religions en général, si elles veulent rester en contact avec ce qu'est la réalité du monde, c'est-à-dire annoncer le fond de leur message, par exemple pour les chrétiens, le message de l'évangile, le message de la résurrection, elles ne peuvent pas se couper des réalités du monde parce qu'on l'annonce dans ce monde-là, avec sa diversité. Donc je crois que c'est la confrontation avec la réalité, le fait que les gens ne se laissent plus faire et disent « et nous, pourquoi on n'aurait pas notre place ? On est aussi enfants de Dieu. » C'est la confrontation avec cette réalité qui fait que ça bouge. Et puis, la société met une pression sur les églises, c'est-à-dire qu'avant, des comportements ou des discriminations qu'on considérait comme normales, aujourd'hui sont considérées comme de l'homophobie. Et effectivement, les églises qui revendiquent d'être à la pointe sur les droits de l'homme, d'être expertes en humanité, bon, il y a un décalage. D'un côté, on est expert en humanité, et de l'autre, on est considéré comme homophobe.
Qu'est-ce qui est à l'origine, selon vous, de l'homophobie des religions et plus spécialement des monothéismes, à part les textes et les traditions qui considèrent l'acte homosexuel comme contre nature? Est-ce qu'il y a une peur de l'inconnu qui joue dans ce contexte?
Alors, je crois que c'est assez différent suivant les différentes confessions chrétiennes. C'est vrai que, par exemple, l'église catholique, qui se conçoit d'abord comme une église société, une église chrétienté, donne beaucoup d'importance à l'ordre, à l'unité. Et elle a peur que ces questions-là fassent bouger trop les choses. C'est aussi une église qui a, par exemple, des communautés monastiques, uniquement d'hommes ou uniquement de femmes. Reconnaître l'homosexualité, c'est prendre le risque, de leur point de vue, d'une désorganisation dans ces communautés. Alors que c'est le contraire, c'est ces lieux aujourd'hui où l'homosexualité dans la pratique est la plus acceptée, dans la chasteté, mais la plus acceptée. C'est différent pour les églises protestantes, où d'un côté on a des églises évangéliques qui sont très conservatrices, et là c'est effectivement ce que vous évoquiez sur une lecture très conservatrice du texte biblique, parce que un travail sérieux sur ce texte biblique permet de dire que ça n'a pas grand-chose à voir, ces condamnations, avec une condamnation de l'homosexualité. Et c'est des églises évangéliques qui insistent sur le moralisme dans ces églises. En gros, ça tourne autour de « avant j'avais une vie de débauche, j'ai rencontré Jésus-Christ et maintenant je suis un saint ». Et donc, je suis un saint, ça va avec une vision assez normative de ce qu'est une bonne vie. Papa, maman, les enfants, etc. Et puis dans les églises type église réformée ici ou église anglicane, c'est-à-dire les églises protestantes centristes un petit peu, là justement ce qui se passe, c'est qu'ils ont des gens de toute la société, avec des opinions très différentes, et qu'ils ont peur qu'aborder la question de l'homosexualité fasse éclater ces églises, fasse partir des gens qui auraient du mal avec ces évolutions-là par exemple.
Il y a quand même des textes du Lévitique hein, qui disent « Quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils seront mis à mort. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, ce serait une abomination. » La destruction des villes pécheresses de Sodome et Gomorre dans la Bible hein, fonde l'homophobie chrétienne et le mot Sodome a même donné l'expression sodomite et sodomie. C'est aussi sur cette histoire de Sodome et Gomorre que s'appuie le Coran pour éprouver l'homosexualité. C'est quand même des textes qui sont assez parlants, non ?
Alors c'est des textes en tout cas qui sont très souvent utilisé pour condamner l'homosexualité. Inversement, cherchez dans la Bible le mot homosexualité ou lesbienne, vous ne le trouverez pas. Et pour cause, ce sont des termes qui apparaissent au 19e siècle. Et s'ils apparaissent au 19e siècle, c'est pour une raison simple, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui homosexualité, hétérosexualité, ce sont des réalités sociales. Ça se construit au fil du siècle. Et à l'époque des textes bibliques, on était dans d'autres configurations. Si les gens qui lisent Sodome, ces textes-là de manière littéraliste, le lisent de cette façon-là, il faut qu'ils aillent lire les textes sur David et Jonathan, sur Ruth et Noémie, et dans ce cas-là, qu'ils appliquent la même lecture littérale à l'ensemble des textes, et dans ce cas-là, leur raisonnement ne tient plus. C'est une lecture un peu myope de la Bible, et qui oublie sans doute ce qui est plus fort, par exemple, dans l'Évangile, qui est de dire que plus personne n'est impur, les barrières de séparation doivent tomber, et l'amour est plus important que la loi.
Est-ce qu'il y a une évolution dans les églises en France par rapport à cette question ?
Les églises protestantes, pendant longtemps, ont eu du mal à évoluer. Et depuis à peu près 6 mois, on a eu l'église réformée et l'église luthérienne qui ont décidé de lancer une réflexion pour des nouveaux types d'accueil pour toutes les nouvelles configurations familiales, y compris le Pax, y compris les personnes homosexuelles. Et la Mission Populaire, qui est mon église, qui a fait la même démarche et qui a autorisé localement qu'il puisse y avoir des bénédictions sous une forme donc expérimentale. Et ça, bon voilà, c'est des petites évolutions qui vont doucement, mais qui en tout cas montrent qu'en France, il y a des églises qui bougent.
Est-ce que l'impératif de la reproduction humaine y est pour quelque chose ? Parce que dans la Genèse, on écrit « Soyez féconds et multipliez-vous ».
Alors c'est évident que les textes de la Genèse, Genèse 1 et 2, où on voit vraiment une insistance sur la reproduction, ont beaucoup joué. Ils sont écrits dans un contexte où on a un petit peuple juif qui est perdu au milieu des autres peuples au Moyen-Orient, et donc il a besoin d'être nombreux pour résister. Mais on peut se demander si aujourd'hui la planète a besoin de plus de fécondité, ou peut-être d'une autre fécondité, qui soit une fécondité de l'amour, du partage, de la générosité. Il y a bien d'autres manières d'être fécond, et même de suivre donc à la lettre ces textes, que de l'être de manière, en l'étant de manière biologique.
De plus en plus, les centres qui accueillent les homosexuels sont multiconfessionnels. Je pense à Beth Avrim, le groupe juif gay et lesbienne de France, ou encore l'association David et Jonathan, un mouvement homosexuel chrétien qui s'ouvre maintenant aux musulmans homosexuels. Est-ce qu'on peut imaginer un dialogue interreligieux dans la recherche de réponses à cette question ?
En tout cas, par exemple, ce qu'on vit nous à la Maison Verte, c'est que le dialogue interreligieux ou le dialogue œcuménique, on vit sur des questions concrètes. On va le vivre le 1er octobre pour la journée mondiale pour la non-violence. Et par exemple, on le vit avec ces associations-là lors de la journée mondiale contre l'homophobie, lors de célébrations à la veille de la Gay Pride. Et donc l'interreligieux se fait sur du concret, et du concret donc pour un monde plus fraternel, plus ouvert, qui fasse plus de place à l'amour et moins au jugement des gens, au pouvoir de l'argent, etc.
C'était le pasteur Stéphane Lavignotte. Après. Après l'islam pour les nuls, First Edition sort en ce temps du Ramadan le Coran pour les nuls, avec toujours ce souci de la célèbre collection de toucher le grand public. C'est l'anthropologue des religions Malek Chebel qui a adapté pour l'édition française la version américaine signée par l'islamologue Seyeb Sultan. Malek Chebel qui vient de publier chez Fayard une nouvelle traduction du Coran complétée par un dictionnaire encyclopédique s'est donc prêté à l'exercice d'une présentation simple et rigoureuse. On peut ainsi lire l'histoire du Coran, sa compilation, les méthodes d'interprétation, mais aussi le rapport du Coran au monde et à la société. Pour Malek Chebel, le Coran pour les nuls vient compléter l'islam pour les nuls.
Oui, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que l'islam, c'est la civilisation qui est générée à partir du Coran, qui est partie à partir du Coran. Mais le livre sacré, le livre de base, c'est le Coran. Si les gens n'arrivent pas à comprendre le livre fondateur de l'islam, à savoir le Coran, ils auront une vue étriquée de l'islam. Et j'ai voulu, quand on m'a proposé ce projet, donner la plénitude à tous les lecteurs de pouvoir se doter d'une vue globale, générale et précise de l'islam. Et qu'ils ne fassent pas l'erreur, notamment dans l'éventuelle interprétation de certains textes du Coran, de suivre le commun qui va toujours au plus simple. Et donc là, j'ai donné une radioscopie du Coran qui permet à tout un chacun de se faire une opinion exacte et personnelle et individuelle de tous les problèmes qui se posent en France.
Alors, le Coran pour les nuls, d'abord pour les non-musulmans ?
Non, le Coran pour les nuls est d'abord un Coran pour ceux qui veulent savoir ce qu'est le Coran, y compris les musulmans. Vous savez que les musulmans peuvent parfois l'apprendre, mais sans savoir comment il est organisé, structuré, architecturé. Et donc, dans ce livre-là, je donne l'ensemble des mécanismes qui font que le Coran est un grand texte. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un grand texte. Et 1,4 milliard d'individus y croient. Donc, à partir de là, ça lui donne une force phénoménale.
Alors, dans la mesure où c'est une collection effectivement tout à fait pédagogique, vous avez travaillé longuement sur le Coran, vous avez fait un travail savant sur le Coran. Comment avez-vous procédé pour justement le simplifier, le présenter de façon accessible ?
Alors, ça, c'est tout le travail que j'ai mené depuis 10 ans aux éditions Fayard. Nouvelle traduction du Coran accessible à tous, avec un dictionnaire encyclopédique. Et je dis pour résumer que le Coran est le trésor, et le dictionnaire qui va avec est la clé du trésor. Donc j'ai traduit le Coran dans un langage simplifié, sans jamais dénaturer l'idée, évidemment. Parce que la performance, elle est là. C'est pas tellement de traduire le Coran, il y a des milliers de traductions du Coran. Toutes faites, je l'aurais pas faite si c'était uniquement pour ça. Mais c'est de la rendre accessible à tous, pour que tout un chacun puisse mesurer la pertinence des propos. Et en plus, on peut la confronter à toutes les traductions, vous verrez que c'est exactement le même sens, mais plus explicite. Donc ce travail-là, je l'ai mené pour des raisons pédagogiques, pour des raisons de salubrité publique, parce que j'estime que tout le monde parle du Coran sans savoir exactement de quoi il s'agit.
Le Coran est à lire et à relire, à recontextualiser à chaque siècle.
Ah, tout à fait, à chaque siècle, et chaque individu doit pouvoir, en toute conscience, le lire selon sa compréhension à lui. Il n'y a pas de dogme dans la lecture du Coran. Le Coran n'est pas un livre uniforme, sinon ce ne serait pas un grand livre. Donc tout ça, c'est une façon de populariser la lecture du Coran, une façon de faire connaître l'islam, voire de le faire aimer.
C'était l'anthropologue des religions, Malek Chebel. On se retrouve après le flash pour un dossier sur les évangéliques.